tant que c'est pas devant sa porte, les gens se sentent pas concernés.
L'espèce de terreur qui est mise, vous comprenez, si on est là, ça pourrait être les terroristes. Quand je pense que tu passes 15 fois avec ta bagnole blindée et qu'on te dit circuler, on a juste regardé ta couleur de peau, je pense que tu comprends assez facilement qu'on cherche juste des enfants noirs et qu'on cherche pas des armes, des terroristes.
C'est Marcel. À Briançon, un squat qui a été ouvert dans une maison suite en fait à l'arrivée massive de migrants et de migrantes l'été dernier dans la région, qui arrivent hein, par de Bardonecchia en Italie et qui franchissent le col de l'Échelle et pour arriver ensuite dans la vallée de Briançon. Il y a des personnes qui ont décidé d'ouvrir ce lieu pour proposer des lits, pour proposer des repas, pour proposer du repos. Et pour proposer un temps un peu de se poser un peu et de pouvoir aussi être accompagné dans les démarches administratives. Et donc c'est un lieu qui accueille une quinzaine de migrants et de migrantes. Pour la plupart, en tout cas, là, quand on est allé, originaire de l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart francophones, ils viennent de Guinée, ils viennent du Mali, ils viennent de Côte d'Ivoire. Ils viennent du Cameroun et ils sont là pour des durées différentes, en tous les cas, le temps qu'il leur faut pour reprendre des forces.
On a ramassé plein de petits trucs, il fallait les jeter à la déchetterie. Puis après, on est allé dans une recyclerie parce qu'il y avait des gars qui voulaient bien nous donner des lits pour les migrants qui sont accueillis. Donc ça nous a permis de remplacer les palettes qui servaient de sommier par des vrais lits. Ensuite, on a descendu les palettes qui étaient au grenier sur lesquelles ils dormaient pour les descendre à la cave pour pouvoir mettre hors d'eau du matériel, des outils, de la bouffe qui sont à la cave. Et puis après, de temps en temps, il faut aller chercher un copain, quoi, puisque voilà, justement, les migrants, tout le monde les appelle les copains. Parce qu'entre le squat et puis l'endroit où il est en train d'apprendre un petit peu le français, s'il se fait contrôler, c'est pas bon pour lui, alors il vaut mieux aller le chercher en voiture. Et puis pendant qu'on va le chercher, quand on arrive là-bas, il faut aider parce qu'il y a une fenêtre qui est cassée et puis il faut mettre du plastique. Et puis après, on ramène le gars. Et puis après, c'est le moment de faire manger pour le soir. Et puis après, il faut aller chercher quelqu'un qui est encore plus en galère. Et puis après, il y a toujours quelque chose à faire. Donc les journées sont bien, bien remplies. S'ils avaient le temps de dormir, on pourrait dire qu'ils dormiraient bien. Voilà.
Briançon, ça fait pas longtemps, puisqu'avant c'était par Ventimiglia. Après, ça fonctionne, je pense, beaucoup par communauté. Mm-hmm. Puis voilà, Ventimiglia, c'est beaucoup des Soudanais, Érythréens. Donc je pense que c'est des passages, entre guillemets, qui sont dits de confiance, même si les passages sont en galère. Et ici, ça fait quoi? Ça fait depuis juillet.
Il y a du passage depuis l'hiver dernier.
Il y a tout le temps eu du passage, mais ça s'est intensifié parce que de toute façon, vu la militarisation à Ventimiglia, c'est bloqué. Si t'as pas de passeur à Ventimiglia, tu passeras quasiment pas. Tu peux vite fait gruger le train, mais sinon c'est foutu. Mm-hmm. Parce qu'il y a des barrages fixes de partout. Et puis ici, ça va pas tarder à être comme ça.
Mais avec les passeurs, ça passe.
Avec les passeurs, ça passe, c'est du business. Et puis ici, du coup, c'est de la haute montagne, quoi. Du coup, c'est pas les mêmes dangers, mais t'as quand même des dangers de mort. Ventimiglia, c'est le passage de la mort. C'est soit par l'autoroute, soit par la ligne de chemin de fer. Voilà. Et puis ici, c'est de la haute montagne. Donc t'as des passages hyper dangereux. Puis maintenant, t'as de la neige.
Oui, parce que parfois, c'est 7 ou 8 renvois.
D'affilée. Mardi, on allait faire un foot. Je pense que si ça peut être mis en place, c'est mis en place. C'est bien aussi de pouvoir un peu décrocher, enfin pas pour nous, pour eux, que les jeunes ils puissent décrocher un peu et puis créer des liens. Parce que je pense que dans comment c'est mis en place, comment l'État met les choses en place, les centres, c'est de la numérisation des gens en fait. Donc c'est ton dossier, on ne te laisse pas le temps de réfléchir. Donc c'est tout le temps rejoindre son ami qui est à Paris. C'est tout. Il y a aucun moment la mise en place d'un lien entre eux. Et parce que ça, je pense qu'ils en ont un peu peur, les temps en ont un peu peur. Qu'il y ait des groupes affinitaires de migrants qui se mettent en place, qui derrière peuvent s'organiser.
Eux-mêmes.
Et voilà, et peut-être que mettre des activités comme ça, et même pour l'état psychologique, c'est quand même bien aussi d'avoir des sas de décompression, quoi. Et à partir de là, pouvoir créer des groupes affinitaires d'entraide pour plus tard, et même décompresser un peu, quoi. Et ce qui permet le temps de la réflexion aussi, je pense. Parce que à part Paris, on leur propose pas grand-chose. Et même des fois, c'est même juste la question, est-ce que je vais en campagne, est-ce que je vais en ville, ce genre de choses.
Et je pense qu'ici, il y a l'idée de créer du lien aussi au-delà du fait qu'on est entre migrants.
Oui, voilà.
D'être juste entre hommes avec un grand H et de profiter d'être ensemble, de voir ce qui est possible, quoi. De sortir des carcans de migrants, gens d'ici, etc. Quoi, dans l'idée.
C'est clair que c'est une force. Et c'est ça qui fait flipper
ouais.
Un peu l'État ouais. Aussi, c'est de dire qu'il y a des gens qui peuvent s'organiser. Il y a cette espèce de mythe du « bah non, les copains, ils vont pas pouvoir s'organiser ensemble, il faut qu'on les aide ». Mais non, en fait, ça, c'est, pour moi, c'est un peu aussi l'écueil de plein de groupes qui sont dans l'aide et dans cette espèce de truc humanitaire. On revient dans la charité, ouais, alors qu'il y a une l'assistanat, ouais. Alors qu'il y a une putain de détermination et qu'il faut juste la mettre l'enclencher. Et c'est sûr que isoler les gens, c'est c'est comme tout, partout, quoi. Isoler les gens, ça enlève de la force.
Et puis ça invisibilise aussi ce qui se passe, quoi. Enfin, ça, ouais, ça sort de l'assistanat pur et dur. Et puis là où on a vu que ça pouvait marcher, ce qui s'est passé à Ventimiglia à un moment, ce qui s'est passé aussi ailleurs.
À Marseille, la deuxième année.
Voilà, à Marseille, c'est les jeunes qui s'auto-organisent. Et nous, en fait, on n'est pas là. Il faut sortir du truc caritatif, aider.
C'est clair.
C'est qu'en fait, eux, ils s'auto-déterminent parce qu'ils ont le droit, à un moment, de le faire. S'ils ont entrepris un voyage hyper dangereux comme ça, c'est que parce qu'ils ont décidé d'agir sur leur vie. Et puis c'est eux qui savent en fait ce qu'ils veulent. Nous, on n'a aucun moment, on sait pas, on n'est pas là pour savoir ce qu'ils veulent en fait. Donc ils savent très bien s'auto-organiser, quoi. Et puis même sur des réflexions un petit peu paternalistes, on va leur expliquer la police est dangereuse, les lois machin et tout. Et ils sont quand même passés en prison en Libye, ils sont quand même. Donc je pense qu'ils ont déjà pas de crainte à s'auto-organiser, à même avoir des réflexions politiques. Ça s'est vu à Marseille, hein. Il y a eu des AG, on a un peu forcé le pas pour que ça se fasse. Mais les jeunes, quand on a commencé à leur laisser la parole, après c'est eux qui faisaient leurs AG. Les gens, ils étaient surpris un peu des assauts un peu légalistes. Mmh. Ah bah tiens, ils ont de la réflexion. Ah bah tiens, dis donc, lui, il a des trucs à dire. Bah ouais. Et à partir de ça, bah, en fait, derrière, ils se sont groupés. Et il y a eu la préf qui a essayé un peu de diviser entre les OPP, les déminorisés, les mineurs qui n'avaient pas d'OPP. Et bah finalement, ils ont dit, bah non, on reste tous ensemble. Et non, en fait, on va pas se séparer parce que la politique est comme ça. On sait très bien ce qu'on nous propose, on sait très bien ce qu'on veut, et nous, on demande ça. Et c'est ça, je pense, qui a fait un peu que ça a fonctionné aussi. Nous, je pense qu'on est là pour la logistique, un peu comme chez Marcel. Moi, je vois un peu comme un moyen logistique, en fait. Logistique et d'aide matérielle. Peut-être un petit peu psychologique, enfin pas de la psycho, mais voilà, et de l'accompagnement. Mais on a aucun moment là pour définir ce que ça va être leur parcours, où ils vont aller, quelles études ils veulent faire, quel travail ils veulent faire, dans quelle région ils vont aller, ça va être de décider. Mais il faut juste leur, je pense, leur permettre d'avoir un peu toutes les billes en main et les cartes en main pour dire, ouais, ben moi, je déciderai ça, quoi.
Ouais, d'avoir le temps de faire connaissance avec les possibilités qu'il y a ici,
ouais,
quoi.
Ça.
Avec le fonctionnement de la France, les désillusions ou pas, etc. Et puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent engager eux après pour eux-mêmes. Quoi.
Ce qui m'a marqué, c'est quand on est parti le soir, là, qu'on a su qu'il y avait des gens qui étaient un peu en galère dans la montagne. Et donc, du coup, on est monté là-haut. On a fini par les trouver. En tout cas, on les a croisés sur la route. Et donc, on voit ces 3-4 personnes au bord de la route avec leurs sacs en train de marcher, leurs petites baskets et marcher sur la route. Du coup, on s'arrête. On savait qu'il y avait... Bon, les forces de l'ordre, on les avait croisés avant. On s'était fait arrêter un premier contrôle. Donc, on sait bien qu'on est... qui sont recherchés, tout ça, donc on les met sur le bas-côté, on ne sait pas quoi faire, il y en a 3 qui ont les pieds gelés, qui sont en souffrance, qui gémissent, on leur parle, on ne sait pas... On se retrouve dans cette situation où on n'était pas préparé forcément, en tout cas moi personnellement, et puis on finit par appeler les secours, parce qu'on estime que c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon ils passent la nuit là-haut dans la montagne et dans la neige. Et puis là on a les pompiers qui arrivent, et puis juste après on a la police qui arrive, et qui direct nous considère, nous les 3 personnes qui avions appelé les secours et qui étions là, direct on se fait interroger comme des criminels, quoi. Il y a un ton qui est employé, il y a une manière de nous interroger qui fait que tout de suite... On nous fait bien comprendre qu'on est des criminels, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Enfin, quand le flic m'a demandé mon nom, mes papiers, après avoir gueulé sur les migrants qui les faisaient chier, enfin, c'est ces termes, hein, ils nous font chier, ceux-là. Et j'avais envie de lui dire, mais vous prenez mon nom pourquoi ? Pour nous remettre la Légion ou c'est pourquoi ? Enfin, je veux dire, bien sûr que ça mérite pas la Légion, mais je veux dire, on fait un acte humain tout basique d'essayer d'aider des personnes qui sont en danger grave, parce que là on avait les pieds qui commençaient à être gelés, quoi. Donc si on les laisse la nuit là, leur vie est en danger, et c'est ça qui m'a marqué. Enfin, moi à ce moment là je me suis vraiment senti dans un autre monde. Je me suis dit, oula, où est-ce qu'on en est à faire que on a essayé de les aider, et on se retrouve dans une situation où on risque. Et d'ailleurs, on va peut-être être convoqué par la police parce que, justement, on a aidé ces personnes-là.
Et même si avant, tu avais un ressenti vis-à-vis, je sais pas, des migrants, que tu t'étais monté, on t'avait bien monté le bourrichon, on va te voler ton travail ou quoi, et que tu vois un gamin marcher dans la neige, déjà, ton premier, pour beaucoup, leur premier réflexe, c'est déjà le sortir de là. Puis après, ah bah ouais, il est en face de toi, ah bah tiens, c'est pas un monstre, ah bah tiens, c'est un humain, ah bah tiens, il a un parcours pas facile, ah bah tiens, il est pas venu en fait juste pour me voler mon boulot, il en a chié, et il est là pour, voilà, quoi. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la Roya, quoi, enfin, de partout. Il y a des... moi, on m'avait raconté qu'il y avait des gens, voilà, un peu de la cambrousse, enfin, c'est pas pour être méchant, les gens de la campagne, mais qui étaient un peu, ouais, FN et tout, même qui ont commencé à gueuler aux premiers arrivés, et puis quand ils les ont vus devant leur porte, sans chaussures et tout, bah à la fin, ils faisaient des collages, ils faisaient des maraudes à Ventimiglia, quoi. Peut-être même qu'ils avaient gardé leur espèce de racisme économique, du genre, faudrait quand même pas trop qu'ils viennent chez nous pour nous voler un travail, mais n'empêche que... là, c'est de l'humain à l'humain.
Ça réveille l'instant, oui.
Tu vas les aider, enfin, tu laisses pas des gens crever comme ça. Voilà.
Territoire pillé, exploité, sacrifié, se retrouve maintenant appauvri. Soumission esclavage, dictature installée. Innocents massacrés, l'Occident c'est un cinématique. Destin brisé, bercé d'illusions. Toute histoire de réfugiés. Destin brisé, bercé d'illusions. Toute histoire de réfugiés. Fanatisme, pression, guerre civile, persécution. Exit du populace, voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Maintenant immigré, clandestin et apatrie. Ces visages accablés, j'aime juste d'un peu de répit. Destin brisé, bercé d'illusions. Toute histoire de réfugiés. Destin brisé, bercé d'illusions. Toute histoire de réfugiés. Toute histoire de réfugiés. Toute histoire de réfugiés. Leur femme est fatiguée, saignée par les passeurs. Le regard égaré, postulant un avenir meilleur. Chaque jour des milliers arrêtés aux frontières, détenus par quelqu'un d'un fixé sur leur sort. De retour au pays, plus qu'une seule envie. Écrit son destin qu'un pas d'épreuve à endurer. Un navire délabré traverse la Méditerranée. Pour finir le fâché, c'est le prix de la liberté. Et ça le prix de la liberté. Et ça le prix de la liberté.